Bonsoir, il est 15h à Washington, 19h en temps universel. Un point sur l'actualité avec Abdourahman Dia. Au Cameroun, 6 bénévoles arrêtés alors qu'ils distribuaient des masques et du gel hydroalcoolique dans le cadre d'une initiative du principal opposant au président Biya ont été relâchés après 5 jours de détention. Le procureur de la République nous a dit que nous serons convoqués pour répondre des faits de rébellion et trouble à l'ordre public, a indiqué une des personnes libérées. Le pouvoir avait déjà empêché une collecte de fonds pour lutter contre le coronavirus lancée par Maurice Kamto, candidat malheureux au second tour de la présidentielle de 2018. Environ 30 000 partisans de l'opposition au Malawi se sont rassemblés dimanche à Lilongwe pour un meeting avant la présidentielle prévue dans moins de 2 mois, en dépit des restrictions édictées par le gouvernement pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Le Malawi a interdit les rassemblements publics limités à 100 personnes maximum, ce qui n'empêche pas les partis politiques d'organiser de manière régulière des meetings avant la présidentielle, qui devrait avoir lieu le 23 juin ou le 2 juillet. Au pouvoir depuis 2014 au Malawi, Peter Mutharika a été réélu en mai 2019 pour un second mandat dès le premier tour du scrutin. Mais sur requête de l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé en février la victoire du sortant pour cause de fraude caractérisée et ordonné un nouveau scrutin programmé par le Parlement le 2 juillet. Les électeurs béninois ont voté ce matin, aujourd'hui, pour élire des conseils municipaux et communaux dans 77 communes, malgré les risques de contagion du nouveau coronavirus et les appels à boycotter le scrutin. À Cotonou, capitale économique, où ont été recensés la majorité des 339 cas officiellement déclarés, les agents électoraux ont imposé les mesures barrières et le respect de la distanciation sociale d'un mètre. Toutefois, ces mesures ne parviennent pas à rassurer les électeurs qui sortent au compte-gouttes, observe un agent électoral en poste dans le 5e arrondissement de la ville. L'armée soudanaise a annoncé ce dimanche que 2 hommes qui tentaient de forcer un barrage pendant le couvre-feu avaient été tués par un soldat. Selon l'armée, ces 2 hommes ont refusé d'obtempérer aux ordres répétés de s'arrêter. Les autorités soudanaises avaient initialement décrété un couvre-feu intégral à Khartoum pour 3 semaines à compter du 18 avril en vue d'enrayer la propagation de la maladie de COVID-19. La mesure a été prolongée ce mois-ci de 10 jours. En Algérie, le directeur d'un hôpital a été démis de ses fonctions après le décès des suites du COVID-19 d'une femme médecin de 28 ans, enceinte de 8 mois, à qui il avait refusé un congé. Une affaire qui a suscité une vive émotion dans le pays. Le ministre de la Santé avait ordonné samedi l'ouverture d'une enquête administrative pour déterminer les circonstances du décès de la docteure Boudissa. À l'issue de l'enquête, le dossier est susceptible d'être transmis à la justice si une faute grave est avérée, le ou les responsables risquent d'être poursuivis pour homicide par négligence, a précisé une source du ministère de la Santé algérien. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a salué ce dimanche l'accord de partage du pouvoir signé entre les 2 dirigeants rivaux en Afghanistan. Il les a incités à poursuivre leurs efforts pour mettre fin à la violence. La priorité pour les États-Unis reste que les 2 belligérants signent un accord politique pour mettre fin au conflit. Mike Pompeo salue l'engagement des 2 responsables à rouvrir les négociations inter-afghanes, a ajouté la porte-parole en référence à l'ouverture de pourparlers de paix avec les talibans prévus par l'accord. Les États-Unis ont signé un accord en février avec les talibans qui prévoit le départ des troupes étrangères sous 14 mois. Et puis le Parlement israélien a approuvé dimanche le gouvernement d'union mené par le premier ministre Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Merci de nous écouter, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous dans ce dialogue des religions. Oui, c'est un sujet très controversé, mais nous devons en parler. La nuisance sonore causée par l'amplification des haut-parleurs qui appellent à la prière musulmane. Certains pays ont interdit ces appels. Dans certains cas, cette mesure a été inapplicable. D'autres pays, comme l'Israël, par exemple, envisagent à légiférer et la loi va frapper toutes les religions sans exclusive, selon un projet de loi en cours dans l'État hébreu. En tout cas, ces appels suscitent l'exaspération. Il y en a qui les tolèrent, mais la question fondamentale dans tout cela, où s'arrête la liberté de culte et où commence la liberté d'autrui. Pour en parler, nous aurons des auditeurs en ligne. Nous reviendrons sur les commentaires postés sur notre page Facebook. Et surtout, nous sommes en ligne de Dijon, en France, avec Athanase Karayenga. Bonsoir Athanase.
Oui, bonsoir Eric.
C'est un plaisir de te recevoir dans le dialogue des religions.
Oui, c'est très très aimable, c'est un très beau thème. Le dialogue des religions, c'est un magnifique thème, oui.
Et oui, je signale à nos auditeurs que Athanase est un athée, mais il s'intéresse à la religion, n'est-ce pas?
Oui, je suis athée, mais il faut aussi préciser que je suis né au Burundi, dans un pays où il y avait une religion traditionnelle avec un monothéisme connu et reconnu Imana, et que les églises européennes, avec la période de la colonisation, notamment l'église catholique, avaient pris le dessus. Et tout naturellement, je suis entré dans la scolarisation du système catholique, donc j'ai été très catholique. J'ai été élevé dans deux petits séminaires au Burundi pour devenir prêtre, et après j'ai bifurqué. Et je suis athée, mais
modéré.
Ça ne veut pas dire que je suis insensible et encore moins hostile à la question religieuse, mais surtout j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ceux qui ont une religion et qui exercent avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de respect.
Merci, restez en ligne. On a également Bakary Keïta à Bamako. Bakary, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Oui, bienvenue.
Ah, au plaisir.
Ah oui, donc on a Athanase qui est en France et Bakary à Bamako. Bakary, chez vous à Bamako, c'est un sujet controversé.
Oui, bon, la religion, quand même, c'est un sujet vraiment controversé. À mon avis, c'est largement est un pays laïque. Donc, toutes les religions, quand même, sont pratiquées ici, c'est-à-dire la religion musulmane, la religion chrétienne. Et ceux qui ne s'adhèrent pas quand même à ces deux religions pratiquent aussi leur religion de côté. Et on le fait aussi dans la parfaite cohabitation. Donc pour éviter, d'autant plus que c'est le syncrétisme en ce moment.
Oui. Bakary, très spécifiquement, les appels à la prière le matin, est-ce que ça gêne chez vous? Y a-t-il une mesure gouvernementale pour réguler?
Bon, le gouvernement, quand même, il n'y a pas eu une mesure quand même pour réguler ça. Mais, par exemple, il y a un leader quand même d'une grande renommée au Mali avait dit que vraiment, par exemple, pendant le mois de Karam, les 10 derniers jours-là, souvent les gens priaient ça, souvent ça dérangeait les gens. Un grand marabout nous a dit que cela vraiment est interdit. Quand vous êtes musulman, il ne faut pas empiéter quand même le droit des autres. Tu vois, parce que la religion, quand même, si vous faites votre religion, il ne faudra pas aussi déranger les autres dans leur paix, dans leur quiétude.
Athanase, c'est un sujet qui touche sur la foi. Quelle est la dimension de la sensibilité des appels à la prière?
Mais d'abord, je crois qu'il faut rappeler une évidence. Les appels à la prière, que ce soit dans l'église, dans le culte musulman, dans l'islam, sur les chants religieux dans toutes les autres religions, le chant grégorien, c'est d'abord une expression d'une ferveur religieuse. Et au-delà de cette ferveur religieuse exprimée par le chant, il faut d'abord signaler que c'est un élément du culte de ces religions. Et avant de présenter cet appel à la prière, l'appel à la prière façon musulmane, comme un problème, c'est d'abord quelque chose de très beau, de très poétique. Moi, j'ai vécu pendant presque 2 ans en Égypte. Je sais que l'appel de la prière ponctuait la journée. Et surtout, l'appel de la prière, même moi qui n'étais pas musulman, qui suis athée, comme vous l'avez dit, l'appel de la prière de la fin de la journée, je l'attendais presque avec impatience, tellement c'était beau. Cet appel du muezzin à la prière du soir, je trouvais ça vraiment sublime. Je trouvais ça un moment poétique, exactement la même émotion qu'on peut éprouver quand on est dans une église, dans un rassemblement, et que les adeptes, les fidèles chantent des cantiques, des chants religieux, des chants grégoriens. Donc, je crois qu'il faut d'abord dire avec beaucoup de respect que les appels à la prière, que ce soit dans la religion musulmane ou ailleurs, c'est d'abord des appels positifs, c'est des appels qui font partie de la ferveur religieuse. Mais ceci dit, il y a malheureusement des croyants, je vais être prudent, qui deviennent distraits par rapport à la société dans laquelle ils sont immergés. Je ne mettrai pas nécessairement l'accent sur l'appel à la prière du muezzin, mais j'ai vu dans certaines capitales africaines des appels à la prière lancés par les nouvelles églises évangélistes. Une fois, je me trouvais au Ghana, à Accra, et vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement invasif, extrêmement désagréable. Et c'était des prières qui sont en plus relayées dans des radios où les pasteurs, les officiants vociféraient plutôt qu'autre chose. Et je crois qu'il faut être extrêmement prudent et extrêmement reconnaissant aux autorités religieuses qui savent mettre une limite, une barrière, qui savent réguler, qui savent évoquer le bon sens. Parce que quand il y a trop d'appels à la prière chez les musulmans, il y a toute heure et ça devient tempestif, c'est une nuisance. Les évangélistes qui hurlent leurs appels à la prière, c'est aussi une nuisance. Les cloches dans les églises catholiques ou protestantes qui sonneraient à tout bout de champ, c'est une nuisance. Donc c'est un appel plutôt à la régulation, au bon sens, mais au respect, bien entendu, de la spécificité de chaque religion.
Oui, et restez en ligne, on va recevoir Alberto Vinga. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, vous vous dites que c'est logique qu'il faut respecter les voisins, que le matin...
Oui. Moi, je suis pas contre la religion musulmane ou contre toute religion. Mais moi, je crois que tout croyant doit connaître l'heure et le lieu de son culte. Donc, c'est pas parce qu'on est musulman ou on est chrétien, on doit commencer le matin comme ça à crier, à déranger tous les voisins. Et le soir, pendant que les gens sont en train de se reposer pour se concentrer, on commence à crier. Non. Moi, je crois que la bonne manière, c'est de savoir l'heure. Et le lieu où on va se rencontrer, parce que tout musulman, tout chrétien, tout croyant, connaît l'heure et le lieu où il va aller adorer son Dieu. Donc ce n'est pas la peine de commencer à crier, à prier tout le monde à venir à la prière. Donc il n'y a pas de raison pour ça. Non, moi, en tant que chrétien, je sais que mon heure de prière, je vais réveiller le matin, je vais à l'église. Le soir, ici, j'ai à faire, je fais mon travail, ici, je dois aller à l'église, je connais l'heure et le lieu où je vais. Donc ça sert à rien d'amener tout le monde pour que tout le monde sache que non, c'est vous qui priez. Non.
Merci. Merci.
Parce qu'on doit aller adorer son Dieu qu'on commence à créer sur tous les toits, que non, c'est pas comme ça.
Ok, merci Alberto pour votre contribution. C'est très clair, hein. Il faut savoir le lieu et l'heure du culte. On reçoit Cédric Hadji. On me signale que c'est Youssouf qui est plutôt en ligne. Youssouf, bonsoir.
Bonsoir, d'accord, bonsoir.
Oui, vous avez la parole.
Oui, nous sommes du Mali. Ce qui donne l'esprit de controverse au Mali, ce n'est pas des religions. Car toutes les religions ne sont pas représentées au Mali. On se promène dans toutes les rues de Bamako, partout, on ne trouve jamais une synagogue qui représente le judaïsme.
On voit des églises. Youssouf.
On voit également dans la religion musulmanisme, on voit des mosquées partout.
Oui, Youssouf, on parle des appels.
C'est des sectes qui sont créés, affiliés à ces religions qui nous embêtent. Car des mosquées qui sont créées par des sectes sont des mosquées qui représentent des fondations qui cherchent à avoir de l'argent dans les pays arabophones. Cela nous donne de l'esprit de controverse. À part cela, il n'y a pas de synagogue au Mali. Il y a des chrétiens, les chrétiens sont répartis en sectes.
Athanase, vous avez suivi vous avez suivi Alberto Vinga. Ce qu'il dit, c'est vraiment très clair.
Oui, tout à fait, mais vous savez, encore une fois, ne stigmatisons pas l'appel à la prière pour ce qu'elle est, pour ce qu'il est, je veux dire. Effectivement, il y a du simple bon sens à exercer parce que regardez la situation, comment elle évolue. Aujourd'hui, les villes africaines deviennent extrêmement populeuses. Les quartiers sont habités par un grand nombre de population, et dans cette population de quartiers, il y a des mosquées, il y a des églises, mais surtout un pays comme le Mali, à Bamako, où je me suis rendu très 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 souvent, jusqu'à présent, il n'y avait pas une promiscuité extrêmement tapageuse, si je peux dire comme ça. C'était quelque chose qui était souple, qui était inscrit dans un rythme plutôt rural et qui n'était pas du tout agressif. Mais à cause de la proximité, plutôt avec l'explosion démographique des villes, il est évident dans leur quartier que vous avez pas seulement les mosquées, pas seulement les églises, mais vous avez des écoles, vous avez des hôpitaux, vous avez des maisons de repos pour des malades, des maladies, des maisons de convalescence. Si vous soumettez les malades et les écoles, les maternités, vous les assaillez avec un bruit permanent et de nuit et de jour et de la journée avec des sons de cloche, avec des vociférations à la prière ou avec des appels à l'aide du muezzin, mais vous créez vraiment une grande perturbation et c'est pour ça qu'il faut réguler, il faut dire ben non, dans un quartier on ne peut pas superposer tous ces bruits et embêter les malades, les enfants, les femmes qui sont en maternité.
On y revient tout à l'heure, Athanase, après une petite pause, et il y a une question intéressante de Issa Hamzati après.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Dialogue des religions, Eric Manilakiza avec vous. On parle de la nuisance sonore causée par l'amplification des haut-parleurs qui appellent à la prière musulmane. Nous avons en ligne Issa Hamzati. Issa, bonsoir. Issa ?
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Oui, vous dites que c'est un faux débat, un vrai faux débat.
Vraiment, c'est vraiment un vrai faux débat, parce que dans la société actuelle mondiale, on peut la considérer comme ça. Tous, nous avons la certitude de la durée de la paix du voisin pendant un soir, pas à excéder 5 minutes. Et croyez-vous vraiment qu'un appel qui ne fait pas 5 minutes peut indisposer les gens, peut mettre mal à l'aise les gens? Pourquoi pas?
Et ça,
nous avons, s'il vous plaît, un tout petit instant. Nous avons quitté les problèmes du Birka, qui asservissent la femme musulmane. Aujourd'hui, on va arriver aussi à interdire les prénoms musulmans. Et c'est là où on va.
Il ne faut pas spéculer. Issa, il ne faut pas spéculer. Là, on est en train de parler de cette controverse sur les appels. Alberto a dit que lorsqu'on sait où se tient le culte, Alberto, c'est notre premier auditeur qui nous a appelé, il dit, voilà, quand on sait le lieu du culte et l'heure de votre culte, est-ce que vous avez besoin d'un appel à travers les haut-parleurs pour répondre à la prière?
Oui, on sait, mais je peux aussi vous retourner la question autrement. Tous les catholiques savent où se situent leurs églises, mais combien de minutes durent les cloches qui annoncent les débuts de la prière du dimanche? Ça dure la sonnerie de la cloche?
Merci Issa pour.
Il n'y a pas un débat à mener dans ce
sens-là. Merci Issa pour votre contribution. Athanase va répondre à cette question. Athanase, est-ce réellement un vrai faux débat?
Non, c'est un vrai débat parce que c'est un vrai débat de cohabitation, surtout en milieu urbain. Je donne un exemple au Burundi. Pendant un certain moment, l'ancien président Bagaza, qui persécutait l'église catholique, avait interdit les cloches des églises catholiques.
Moi, je m'en souviens très bien.
C'était grotesque parce que les cloches, il ne sonnait que une ou deux fois dans la journée, le matin et le soir, pas plus. Et actuellement, au Burundi, il y a une controverse qui est née par une multiplication exponentielle de mosquées. Et c'est votre. Il y a un interlocuteur de Bamako qui a mentionné tout à l'heure la prolifération des sectes de provenance d'autres pays islamiques éventuellement.
Oui, c'est Youssef.
Où il y a une sorte de surenchère. Et on sait, au Burundi notamment, que dans certaines mosquées, ceux qui sont responsables d'organiser la prière musulmane installent des haut-parleurs sur batterie ou sur l'électricité et montent le volume. Mais quand ce n'est pas régulé, quand chacun y met de son volume et quand dans les quartiers il n'y a plus de temps de repos, et c'est là que ça devient problème. Mais sinon, un appel à la prière grâce à la cloche, c'est tout à fait normal, mais ça doit être court, discret et pas intempestif. Le muezzin, c'est pareil. Ça fait partie des rites de la religion musulmane. On ne peut pas non plus accepter l'idée qu'il n'y ait plus d'appel du tout. Ça fait partie quand même de la mobilisation des croyants. Et ce n'est pas insensé d'imaginer un appel à la prière, par exemple, qui serait rotatif. Que chaque quartier a la mosquée A dans le quartier A hérite de la possibilité de faire l'appel à la prière pendant une semaine, et la semaine d'après c'est la mosquée B, et après c'est la mosquée C jusqu'à la mosquée Z. Il faut juste réguler, il faut juste un peu de bon sens, il faut juste tenir compte de la diversité des croyances dans les quartiers urbains, et il faut juste se rendre compte qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont des enfants, et dont il faut protéger le repos.
Oui, il y a d'autres commentaires sur notre page Facebook. Il y a par exemple Diara Kanyume qui dit que dire que le son d'appel dérange les gens, je ne suis pas du tout d'accord. Il donne l'exemple de Bamako au Mali. Il dit que là-bas, il baisse les voix des micros dans tous les quartiers et pour lui, ça ne cause aucun problème. Christophe Soba Pakpagne, il dit chacun a sa religion. Il trouve que c'est de l'injustice interdire ces appels. Et Youssouf Ouedraogo, qui est au Burkina, il dit ce sont des interdictions habitées de très mauvaise foi que je trouve déplacées, voire discriminatoires, ce qui constitue un frein majeur à la liberté de culte. Et il y a Alphonse Mbouaki, en RDC, qui dit le matin c'est un moment de tranquillité, le soir est fait pour le repos après une journée la sainte de travail, il faut respecter le repos des autres. Et Moussa Ibn Moussa Adom, il dit, la religion est pied de l'islam, elle appelle à la prière et la force de l'islam. Personne, je dis bien, personne ne peut pas et ne pourra l'interdire au monde. Lui, il est à N'Djamena, au Tchad. Athanase, un commentaire à ces commentaires des internautes.
Oui, je pense qu'on revient tout de même à la même question. Est-ce que interdire, c'est envisageable? Moi, personnellement, je serais absolument hostile à l'interdiction des appels ou de la cloche ou tout signal religieux. Pour ceux qui croient, c'est important de peut-être de ponctuer leur journée de façon avec des signes entendables et visibles de prière. Je crois qu'il faut éviter vraiment une forme d'agression en disant aux gens non, on supprime l'appel, on supprime la cloche. C'est pas comme ça que ça devrait être régulé. C'est plutôt la régulation. C'est plutôt le partage. Partager le moment d'appel à la prière, mais aussi partager le silence, partager la quiétude des habitants. C'est un patrimoine commun. Même ceux qui sont favorables à des cloches qui sonneraient toutes les heures ou à des appels à des muezzins qui seraient très fréquents dans la journée, ils sont aussi demandeurs de calme, de silence, de repos. Et donc, ce sont des intérêts qui ne sont pas contradictoires. Il faut juste que les gens apprécient la régulation et que les gens s'assoient et trouvent une solution pour donner une suite favorable à ceux qui veulent avoir les muezzins, les appels à les muezzins, mais qui veulent aussi qu'il n'y avait pas trop fort, pas tout le temps.
Oui, et il y a d'autres commentaires, Athanase. Par exemple, Anster Chando, il dit qu'on les laisse faire leur prière, mais sans haut-parleur. Et Christin Kings, il dit, je trouve que ce n'est pas interdire le culte musulman, mais juste les nuisances sonores dans les pays islamiques comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, Dubaï. Je vois mal une église jouir de tous les droits que des mosquées jouissent dans les pays à majorité chrétienne. Et il y a RSB Jacob Kabukabu Washia, il dit, dans l'entretemps, les bars et les bistrots font des bruits en longueur de journée. Athanase, il nous reste moins d'une minute.
Oui. Exactement. C'est très, très heureux d'entendre que quelqu'un a mentionné la question des boîtes de nuit, les questions des bars. C'est exactement la même chose parce que la liberté de ceux qui veulent danser dans les boîtes de nuit, elle est réelle, il faut la sauvegarder, il faut la développer. Mais pour autant, il faut la réguler parce que imaginez une boîte de nuit qui vocifère à longueur de journée et ça se voit, ça se sait. Moi, j'ai très souvent été à Kinshasa, dans les quartiers populaires de Kinshasa, mais on est saisi par le volume sonore permanent. Chacun a sa radio, sa chaîne de musique.
Oui, 20 secondes, Athanase.
C'est exactement la même chose. Apprécions la musique, le désir de calme et de sérénité du voisin.
Merci, Athanase. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci à Lionel Gahima qui dirigeait la mise en onde. Eric Manilakiza était avec vous. Merci à Athanase Karayenga qui est en France et à nos ingénieurs du son. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. pensée, je demande pardon à tout ce que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris.